réfléchir au temps qui passe. Ce soir, c'est du temps qu'il fait, dont M. Rémi Fruchard, qui est délégué départemental à Météo France, va nous entretenir avec ce sujet, comment la météo influence-t-elle notre présent ? Après avoir retracé l'histoire de la météorologie, il nous expliquera comment, après la tempête de 1999, la météo a pris un autre visage avec l'apparition des centres de vigilance. Je remercie M. Fruchard pour avoir accepté d'intervenir dans le cadre de notre festival. Je lui laisse la parole et des questions pourront lui être posées après son intervention. Merci pour votre présence et votre attention. Le festival continue ce soir avec une lecture musicale à l'église Saint-Jean de Montière-Neuf à 20h45 et demain, entre autres, avec un atelier de sophrologie pour les adultes demain matin. Par contre, je signale tout de suite aussi que le film qui était programmé demain soir, Time Out, en raison des incidents qui ont eu lieu au TAP, le film est déprogrammé et reprogrammé samedi matin à 11h au cinéma Le Dietrich. Voilà. Merci beaucoup.
Bien, bonjour à tous. Donc vous m'entendez, j'ai peut-être pas besoin du micro aussi.
Il faut que je parle dans le micro parce qu'en fait, je vous signale tout de suite, c'est celui-ci. Oui. Ça fonctionne, voilà. Donc il faut que je parle dans le micro parce qu'en fait, l'intervention est enregistrée et ça sera disponible sur le site internet de l'Espace Mendès France en fin de semaine. Donc la présentation et ma voix, donc il faut que je parle dans le micro pour évidemment que ça soit enregistré. Donc je me présente, donc je suis Rémi Fruchard, je suis ingénieur divisionnaire à Météo France. Je suis arrivé à Poitiers le 1er septembre de l'année dernière. J'étais à Châteauroux, en poste à Châteauroux depuis 1999. Voilà, donc je me suis rapproché de ma région d'origine puisque je suis poitevin, je suis né à Pézé-le-Chat dans les Deux-Sèvres le 4 février 1956. Donc voilà. Donc c'était une année très remarquable aussi, surtout le mois de février 56. Ça ressemblait un petit peu à l'année 2012. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la météorologie pour finir par la vigilance, la mise en place de la vigilance et l'évolution de la vigilance. En fait, la météorologie, ça a toujours été mis en place suite à des catastrophes. On s'est aperçu que lorsqu'il y avait des catastrophes, on aurait peut-être pu les prévoir et peut-être faire quelque chose. Alors donc, en fait, l'histoire de la météorologie, je pense que ça remonte même plus vieux que l'Antiquité. Il faut savoir qu'on a eu des traces de l'étude du temps du côté de la Chine 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais bon, les Chinois étant ce qu'ils ont et pas forcément la même culture que nous, on n'en sait pas franchement grand-chose. Donc voilà. Donc je pense aussi que l'homme a commencé à s'interroger vraiment au temps qu'il faisait et à partir du moment où il est passé de l'étape de cueilleur et de chasseur à l'étape d'agriculteur, où là, vraiment, l'influence du temps qu'il fait a eu une grande importance, puisqu'il ne se déplaçait plus, mais il était statique. Et ça avait forcément des grandes importances sur ses cultures. Donc, le premier, disons que dans notre culture occidentale, première publication liée à la météorologie, vous voyez, c'est 384 à 322 avant Jésus-Christ. Ce sont les quatre éléments décrits par Aristote, l'eau, terre, air et feu. Voilà. Donc ça a été repris par Albert le Grand. Donc ça a été détaillé, mais là, c'est vraiment quelques écrits. Mais ce n'est pas franchement la météorologie moderne telle qu'on la connaît. Bon, après, on a eu quelques grandes inventions au XVIIe siècle, l'invention du baromètre, qui, avec une première expérience en 1648, qui a organisé... c'était le baromètre, mais c'était pour voir... Vous savez que la pression diminue avec l'altitude. Donc la première expérience, c'était l'ascension du Puy de Dôme avec un baromètre à mercure et on voyait la différence de niveau. Donc ça, c'est quelques éléments qui sont rattachés plus tard à la météorologie, mais en fait là, ce n'était pas directement lié à la météorologie, mais plutôt on l'utilisait pour comme altimètre. Mais un baromètre, ça sert bien à mesurer la pression atmosphérique. Donc ensuite, quelques écrits. La Société royale de médecine lance une enquête systématique sur les conditions météorologiques, pression, température, état du ciel, précipitation, vent, humidité, hein, et quelques moyennes comme ça qu'on trouve quelques traces. Mais tout ça, c'est vraiment pour nous la préhistoire de la météorologie, puisqu'il faut savoir que pour étudier le climat, il faut des mesures en continu. Et ce n'est pas en ayant des brides comme ça de données, parce qu'en fait, on retrouve, par exemple, dans les registres paroissiaux, des éléments météorologiques qui peuvent être très importants, mais ils ont été notés par nos curés et ils ont seulement noté les éléments remarquables. Mais entre ces éléments remarquables, qu'est-ce qu'il y avait ? Entre la famine, les sécheresses, les catastrophes ou les temps exceptionnellement beaux, on n'avait pas le temps moyen. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment le temps moyen pour avoir cette histoire du temps qu'il a fait. Alors 1804, alors là aussi, exploration verticale de l'atmosphère à l'aide de ballons où on va mesurer quelle est la pression, la température. C'est là où on s'est aperçu aussi que la température décroissait en fonction de l'élévation dans l'air. Contrairement à ce que certains jeunes me disaient, plus on s'élève vers le soleil, plus il va faire chaud. Bien non. Lorsqu'on s'élève, on se refroidit. Et effectivement, lorsqu'on quitte l'atmosphère et qu'on est au soleil, là, il fait très chaud. Mais si on est à l'ombre, on passe à des températures très basses. Donc tout ça, ce sont des scientifiques qui ont laissé effectivement quelques lois. Et ces lois qui commencent à décrire l'atmosphère, à leur époque, on les a reprises et sont encore utilisées. Elles n'ont pas été remises en cause. Elles ont été évidemment améliorées, complétées, mais les premières lois de Gay-Lussac de bio et sont encore appliquées dans les lois atmosphériques actuelles. Donc Joseph Fourier, lui aussi, il commence à établir mais quelque chose dont on parle maintenant, c'est l'effet de serre. Eh bien, ça date de 1768, c'est lui qui a décrit le premier éléments de l'effet de serre. Alors évidemment, il ne l'a pas expliqué forcément au niveau atmosphérique, mais il a expliqué le mécanisme, comment ça se fait que dans une serre, eh bien, on a ce phénomène de réchauffement par réfraction de la chaleur sur une paroi ou sur un gaz. Donc il a, comme ça, exprimé les premières lois qui sont encore utilisées actuellement. Et là, en 1855, en fait, c'est la naissance de la météorologie moderne en France. Parce qu'en fait, la tempête du 14 novembre 1854 a détruit une partie de la flotte franco-anglo-turque pendant la guerre de Crimée. Et on s'est aperçu que cette tempête avait déjà causé des dégâts quelques jours avant, sur sa trajectoire. Ça, c'est en analysant après. Et le Verrier a commencé à dire, mais si on avait suivi, si on avait observé cette tempête, on aurait pu mettre la flotte à l'abri, et elle n'aurait pas été détruite. Et à partir de là, il a convaincu Napoléon III qu'il fallait créer un service météorologique principalement pour les marins, parce qu'évidemment, c'était la marine qui était en cause dans cet élément-là, et transmettre les informations rapidement pour pouvoir prévenir les marins, pour se mettre à l'abri. Et donc, c'est la première catastrophe qui a en fait entraîné la naissance de la météorologie. Et donc après, à partir de là, on a mis en place des points d'observation sur le territoire et sur toute l'Europe, hein, puisqu'il n'y avait pas que la flotte française qui était en cause. Avec des observations régulières, eh bien, on a pu tracer des cartes et déterminer comme ça, ben là, vous voyez, il y a une belle dépression qui est centrée au nord de l'Angleterre, avec les directions des vents. Eh bien, à partir de ces premières observations, on a essayé de prévoir le déplacement des centres de dépression. Et la météorologie, c'est une science expérimentale, donc elle est basée sur l'observation, c'est le premier élément. Lorsqu'on va à l'École nationale de la météorologie, qui se trouve à Toulouse maintenant, eh bien, notre métier, le premier, c'est observer le temps. Observer le temps, c'est les nuages, c'est mesurer les paramètres météorologiques, mais ça, c'est fondamental. Donc tout ça, on est en fait en ce moment en train de déstocker toutes ces archives qui étaient archivées dans des lieux pleins de... d'amiante, donc on ne pouvait pas y toucher pendant plusieurs dizaines d'années, et là on est en train de sortir avec des équipes spécialisées, on a un trésor en fait. Il y a, je crois, il y a 2 kilomètres de linéaires qui sont liés, c'est l'histoire de la météorologie, depuis le début de la météorologie, avec toutes les cartes, et on est en train de déstocker tout ça. Donc voilà, on est, en fait, après... Il nous fallait des observateurs qui soient en permanence sur le terrain. Et il a été mis en place, en fait, dans les écoles normales, un réseau pour compléter ce réseau d'observation. Et donc, moi, j'avais à Châteauroux les premiers relevés qui dataient de 1875. C'était les élèves qui remplissaient ça à l'encre sergent-major, des belles écritures... Donc, ils mesuraient température, précipitation. Et comme ça, on arrive à constituer des données très importantes. Donc, vous voyez ici, c'est une carte d'orage du 17 juillet 1865 hein, qui a été publiée dans un atlas. Donc, tout ça, c'est des points avec des orages qui ont été pointés sur toutes les observations. Et donc, évidemment, après, il faut avoir la mémoire du temps, conserver tout ça. 1874, donc là, ça a été vraiment le départ de la météorologie. Il y a eu plein d'expérimentations, plein de choses qui ont été décrites. Et donc, vous voyez ici la carte et le plan de la marine avec les vents dans l'Atlantique Nord en fonction des points mesurés par des bateaux. Là aussi, on a la météorologie, on a essayé de faire... Il y a des nouveaux procédés d'impression qui nous permettent de sortir des cartes un peu plus rapidement, parce qu'avant, il fallait pointer les cartes, les tracer. Lorsqu'on se trompait, on grattait. Et en fait, ces méthodes-là, elles ont traîné énormément de temps. Moi, j'ai pointé des cartes au Rodrine lorsque j'ai commencé ma carrière... Donc, je suis rentré à l'école de la météorologie en 1974. Et dans ce temps-là, effectivement, vous voyez, c'était un siècle après, on traçait encore à l'encre de Chine. Et lorsqu'on faisait une erreur, on prenait une lame de rasoir et on grattait jusqu'à ce qu'on fasse un trou dans le document et on le jetait, on recommençait. Donc, depuis, effectivement, on a fait d'énormes progrès. Donc, à la mort de Le Verrier, le service météorologique quitte l'observatoire et devient le bureau central de la météorologie. Donc, c'est rattaché au ministère de l'Instruction publique et dirigé par Ulter Mascar, qui est décédé en 1908. Alors, Gustave Hermite, après, il a fallu... On faisait des observations au sol. On s'est aperçu que ça ne nous suffisait pas. Il fallait mesurer l'atmosphère sur toute son épaisseur. Notamment, on s'est aperçu qu'il y avait des phénomènes qui se passaient. On n'arrivait pas à expliquer. Vous avez tous observé ces phénomènes. Vous dites, ouh là là, il y a le nuage est en train de remonter le vent. Ça, souvent de fois, il faut savoir que le nuage ne remonte pas le vent. C'est-à-dire que l'air qui se déplace au sol n'est pas dans le même sens de ce qui se passe en altitude. Et souvent on voit les orages, l'orage, il est en train de remonter le vent. C'est... Non, en fait, un nuage d'orage, ça s'appelle un cumulonimbus. C'est une machine à aspirer de l'air. C'est un gros aspirateur. Lorsque vous avez un aspirateur, l'air vient des deux côtés et il rentre dans le nuage. Mais le nuage, il se déplace en fonction de la masse d'air qui souvent vient du sud-ouest quand c'est des situations orageuses. Et le vent, effectivement, qui vient au sens inverse, c'est parce que le nuage est en train de l'avaler. C'est pour ça. Donc, il y a des phénomènes comme ça qu'il fallait pouvoir expliquer, donc il fallait savoir ce qui se passait en altitude. Donc, on a bien inventé le ballon sonde avec des instruments enregistreurs qui étaient embarqués dans ce temps-là et qui retombaient avec un parachute lorsque le ballon explosait. On fait encore des mesures comme ça aujourd'hui. Hein. Actuellement, 4 fois par jour, eh bien, à Trappes, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Strasbourg, on lâche des ballons sondes. Alors maintenant, évidemment, on ne récupère pas les instruments avec un parachute, puis on va les dépouiller après. C'est transmis par radio en permanence. Il y a un GPS pour marquer les points, c'est plus moderne, mais ce système existe toujours. On fait des mesures par ballon sonde. Donc vous voyez que le 19e siècle a été riche dans l'évolution de la météorologie. À chaque fois, c'était vraiment le début, tout était à découvrir. Donc beaucoup d'hommes de science se sont penchés sur cette nouvelle science qui venait d'apparaître et ça drainait tout un tas de choses. Donc là, évidemment, on observait, on essayait de prévoir le temps, mais la mémoire du temps, la climatologie, c'était aussi important. Alors, ici, donc, Léo Torrensen de Bohr, qui a fait fondé à Trappes un observatoire de la météorologie dynamique. D'ailleurs, il a fait don à la météorologie, c'est-à-dire à l'état de tous les terrains qu'il avait là-bas. Donc, il a, lui, parce qu'on avait les premières expériences de mesure, mais il a dit qu'il fallait mesurer systématiquement l'atmosphère sur son épaisseur. Donc, c'est lui qui a mis en place le système de ballon sonde. Il faut savoir que la météorologie étant mondiale, ce qui se passe, l'effet papillon, comme on dit souvent, lorsqu'un battement d'aile dans les Andes peut entraîner une tempête en Atlantique ou ailleurs, eh bien, il fallait mesurer l'atmosphère sur la planète entière, et c'est ce qu'on fait encore en ce moment. À heure régulière, on travaille tous à la même heure, qui est en temps universel compensé, en UTC. Donc à 0 heure, partout dans le monde, les points qui ont été définis par l'Organisme mondial de la météorologie, qui est un organisme qui dépend de l'ONU, eh bien, on lance nos ballons sondes et on mesure l'atmosphère à un temps donné. Voilà. Donc toutes les 6 heures, toutes les 12 heures, en fonction des pays, eh bien, on mesure l'atmosphère avec des ballons sondes. Et ça a été initié en France par Léon Torrensen de Bohr. Alors là, donc, vous avez un instrument assez compliqué, vous voyez, qui était embarqué avec son parachute et qui permettait eh bien, de mesurer ce qui se passait sur le parcours du ballon. Et lorsque le ballon explosait, il retombait. Mais il fallait aller récupérer le ballon, donc il fallait le suivre. C'était un peu plus compliqué parce que les ballons, ils explosent à une altitude de 15 km, voire de 30 km. Donc, on ne récupérait pas systématiquement l'appareil. Alors là aussi, vous voyez, on fait les premières photos pour créer en fait un atlas international des nuages, parce que les observations, eh bien, tout le monde décrivait des nuages, mais on n'était pas forcément capable de reconnaître, on n'avait pas une base pour reconnaître les nuages. Les nuages, ils sont, en fonction de leur altitude, classés. On leur a donné des noms. En fonction de leur forme, un même nuage peut avoir des noms différents. Parce que, par exemple, pour un cumulonimbus, Eh bien, déjà, il y en a deux. Il y a le calvus, qui est un nuage en cours de formation, et le cumulonimbus capillatus, qui est un nuage qui est en fin de formation, qui va commencer à précipiter. Et donc, il est reconnaissable, par exemple, avec sa forme d'enclume, qu'on le voit à l'horizon. Il faut savoir que ce nuage, qui commence à une base de quelques centaines de mètres, peut aller jusqu'à 16 km, jusqu'à la tromboposée. Et tout ça, c'est de l'eau. Donc, vous voyez que ça peut être... Donc, il fallait une base pour pouvoir eh bien, comparer les nuages entre eux dans les différents pays. Donc, on a créé, ils ont créé un atlas international des nuages à base de photographies. Et c'était des photographies qui étaient, évidemment, la couleur n'existait pas. Donc, ils prenaient leur crayon de couleur pour leur donner de la couleur. Donc, là aussi, on continue toujours... Eh bien, la découverte d'une zone à 10 km d'altitude, la température cesse de décroître. Parce qu'évidemment, les premiers ballons n'allaient pas jusqu'à là-haut. Et on pensait que la température continuait de décroître indéfiniment, alors que ce n'est pas ça. À nos latitudes, la troposphère qui se trouve aux alentours, à une altitude moyenne de 10 km, 10 à 12 km, eh bien, après la température stagne et elle continue à croître et peut croître jusqu'à la température de 500 degrés. Voilà. Donc on a une température qui est au niveau de la troposphère qui peut être de moins 60 ou voire encore plus froid, de moins 80 degrés là, si on va du côté de l'équateur. Et bien à partir de là, elle va commencer à croître. Et donc comme il y a une inversion de température, c'est pour ça que les nuages sont bloqués à ce niveau. Et tout ça, eh bien, c'est des découvertes qu'on a faites au fil du temps en lançant des ballons sondes. Alors évidemment, comme je vous le disais, la météorologie a progressé quand il y avait des catastrophes. La guerre, on peut estimer que c'est une catastrophe. Il a fallu, effectivement, eh bien, pour les besoins de la guerre, et notamment la naissance de l'aviation et les tirs d'artillerie, et puis ben, les gaz de combat, parce qu'évidemment, si on lâchait des gaz, il fallait savoir un petit peu où allait le vent, sinon ça pouvait être dangereux. On pouvait tuer les lignes arrières. Donc la météorologie, là aussi, on a fait des recherches et progressé. Chaque guerre, en fait, a fait progresser aussi la météorologie. On aurait pu se passer les guerres, mais ça a été comme ça. Donc là, eh bien, ce qui nous intéressait, c'était les basses couches. Donc on fait... C'était des ballons captifs et on mesurait les basses couches, ce qui se passait. Est-ce que le vent à 2 mètres, c'était le même que celui à 10 mètres? Parce que si on lâchait des gaz, ils ont tendance à monter. S'il y avait un vent contraire à 10 mètres ou à 100 mètres, ils retournaient sur les lignes arrières, ça pouvait être très dangereux. Donc tout ça, ça fait progresser la météorologie. Alors 1920, eh bien là, tout simplement, on crée l'Office national de la météorologie, l'ONM, qui succède en fait à un bureau. Donc c'est un service météorologique qui est dédié à l'aéronautique et pour les militaires, évidemment. C'était eux qui avaient les plus grands besoins, que ce soit la marine. Donc on va créer quelque chose qui commence à devenir un peu plus conséquent. Donc, il y a notamment un navire école de la compagnie générale qui est transformé en station météorologique. Il faut savoir qu'avant les satellites, on avait besoin de mesures sur l'océan. On n'avait rien. Donc, il y avait des bateaux qui se reliaient à des points fixes. Donc, il y a notamment, si vous allez à La Rochelle, il y a un bateau qui s'appelle le France 1, qui est un bateau météorologique qui a navigué. Donc, ils étaient deux bateaux. La France tenait un point qui s'appelait le point L, qui se trouvait au centre de l'Atlantique. Et deux bateaux se relayaient sur ce point. Et donc, il y avait des météos. Ils faisaient des carrés. Et pendant un mois, ils naviguaient. Les météos se relayaient 24 heures sur 24 pour faire des mesures à ce point-là. Et après, il y a un autre bateau qui venait le remplacer. Et puis, ce bateau-là rentrait au port. Donc moi, j'ai un de mes collègues à Poitiers qui a fait ça pratiquement toute sa carrière. Il prend sa retraite à la fin du mois de mars et il a navigué sur les bateaux. Voilà, il a pratiquement fait toute sa carrière sur des bateaux. Donc il faut dire, l'été, ça pouvait aller, mais il y avait des moments, c'était pas marrant. Hein. parce qu'il faisait des petits carrés de, d'un mille de côté. Voilà, et il faisait ça pendant un mois. Donc, il y a des fois, il ne fallait pas avoir le mal de mer. Alors, évidemment, l'émetteur de la Tour Eiffel a permis de diffuser les premiers bulletins. Il fallait aussi faire de la météo, il fallait la diffuser. On avait dans un premier temps, on la diffusait principalement aux militaires, c'était même classé secret défense. Il y avait des choses, on ne pouvait pas dire que, eh bien, il y avait une tempête qui arrivait, c'était interdit, mais il y a récemment Tchernobyl, pour ne citer que ça, à Météo France, c'était pas encore Météo France, mais moi j'étais à Metz, on savait très bien que le nuage radioactif était passé sur notre tête et qu'il y avait bien longtemps qu'il avait déjà descendu, il était descendu jusqu'en Corse, mais la communication officielle, ça s'était arrêté à la frontière allemande, c'était même pas passé en Alsace. Donc vous voyez qu'il n'y a pas si longtemps que c'était encore un secret défense. Et juste comme ça, il y a encore des secrets pour vous dire qu'on garde sous le coude, pour ne pas nommer la centrale de Civaux où il y a une station météo, les données ne sont pas diffusées. Voilà. Il y a des choses comme ça qui sont le lobby nucléaire en France est encore très puissant et on empêche de diffuser les données. Donc voilà, 1929, évidemment, on invente un autre système de radiosonde, dont vous avez la photo ici, qui était un peu plus moderne. Et notamment, ça permet les transmissions des données. Ça évite d'aller les récupérer, les chercher en permanence. Alors l'aéronautique, évidemment, on s'est attaqué à des grandes traversées, il a fallu s'intéresser au vent qui se passait en altitude sur l'Atlantique. Donc il a fallu pousser des recherches avant que les pilotes se lancent. Mais nos connaissances étaient encore très limitées, évidemment. C'était quand même une aventure. C'est pour eux. Mais il fallait savoir que quand même, on ne traverse pas l'Atlantique comme ça. Et maintenant... Encore, l'aviation utilise évidemment la météorologie. Il faut savoir qu'en altitude, il y a des courants qu'on appelle des courants de jet, où les vents peuvent atteindre 200 à 300 km/h. Donc si vous faites la traversée de l'Atlantique, le vent dans le nez, vous allez consommer du carburant pour vous déplacer nettement moins vite. Donc il vaut mieux prendre le vent dans le bon sens. Puisque un avion se déplace évidemment par rapport à l'air, à son environnement. Donc très important pour l'aéronautique, les vents qui se déplacent. Alors le radiosondage commence au fort de Saint-Cyr, dans la région parisienne, et puis sur les navires français. Donc au fort de Saint-Cyr, c'était jusqu'en 1981, donc c'est sur la commune de Bois-d'Arcy, c'était l'école nationale de la météorologie, qui ont formé tous les météorologistes de France et au-delà. Puisqu'en fait, il faut savoir que tous les pays n'ont pas une école dédiée à la météorologie. Dans la majorité des pays, c'est un cursus universitaire. En France, le choix a été fait de faire une école de spécialistes météorologiques. Et tous les météorologistes sont formés, que ce soit du technicien à l'ingénieur, tout le monde passe à la même école. Voilà, donc le cursus est différent, mais on a tous la même formation de base. Et ce qui crée évidemment dans cette maison qui est Météo France un petit peu un esprit de corps que beaucoup de gens souhaitent éliminer évidemment. Ça, c'est un aparté. Alors voilà. À partir de là, 1945, on a créé un nouveau bâtiment rattaché au ministère des Transports publics. Et ces locaux qui ont été construits quai Branly et avenue Rapp, Météo France vient de les quitter le 1er octobre 2011. Ce bâtiment a été vendu aux Russes et à la place, ça va être une cathédrale orthodoxe qui va être construite. Voilà. Donc il faut savoir que c'est les quartiers chics de Paris, que ça coûte évidemment très très cher. Hein, c'est à côté du musée Chirac, là, qui a été fait quai Branly. Voilà. Et dans ce bâtiment-là, c'est un bâtiment qui dépend de la, de la présidence de la République. Et c'est là qu'a vécu Mazarine pendant l'ère Mitterrand. Voilà. Et elle, normalement, je crois que c'était à cet étage-là, là, ici. Ça, c'est pour la petite histoire. Ça n'a rien à voir avec la météo, mais ça se passait ici. Hein ? En fait, c'était les logements du personnel de l'Élysée. Chauffeurs et ainsi de suite. Alors voilà, bien effectivement, on fait de la météorologie, c'est pas pour nous, c'est pour la diffuser. Donc le premier bulletin météorologique qui a été présenté à la télévision française, ça se passait comme ça. Donc il faut savoir qu'au début, hein, c'était des ingénieurs météo qui présentaient la météo. Et puis après, eh bien, on a trouvé que c'était un peu trop. Il y a certains animateurs qui disaient que ce serait plutôt notre place de présenter la météo. Donc maintenant, il n'y a pratiquement plus de météo qui interviennent, sauf sur Radio France. Donc sur Radio France, c'est des ingénieurs ou des techniciens météo qui interviennent. Et donc, quand je suis arrivé ici, j'ai mis en place la convention qui nous lie à Radio France. Donc, sur France Bleu Poitou, maintenant, c'est les techniciens de Poitiers qui interviennent en direct le matin, 7h du matin, 8h du matin et 17h. Voilà, parce que je pense que les places, il faut les occuper, il ne faut pas laisser la place aux autres. Donc, pour l'anecdote aussi, donc Louis Baudin est le seul, en fait, qui est un ancien de Météo France, hein, qui a quitté Météo France pour faire du routage pour les bateaux, pour la marine, hein, pour les compétitions. Et à l'issue de ça, il est rentré à RTL et maintenant il est rentré à TF1. Donc il a effectivement, c'est un ancien de Météo France. Donc évidemment, on a inventé toujours pour observer le temps qu'il fait. Eh bien, en 1949, c'est la première fois en France qu'un radar météorologique est installé pour détecter les précipitations. Et maintenant, sur toute l'Europe, il y a des radars comme ça qui sont installés. Donc sur Poitiers, on a la chance d'avoir un radar qui est installé à Cherves. Il y a quelques années qu'il a été inauguré. Et donc le rayon d'action du radar est de 300 km. Donc il y a un radar à Nantes, il y a un radar à Trappes, il y a un radar à Bordeaux, un à Bourges, voilà, pour couvrir en gros le secteur. Donc évidemment, il faut que les radars, comme le faisceau du radar est oblique avec la rotondité de la Terre, il faut que les faisceaux se croisent pour avoir une vision globale de ce qui se passe au niveau des précipitations. Très important, parce que maintenant, évidemment, on est de plus en plus météo-sensible. Donc on veut savoir exactement ce qui se passe. Alors évidemment, pour faire progresser la science météorologique, il a fallu aussi aller voir un petit peu partout dans le monde. Et l'avantage, si la France est un grand pays au niveau de la météorologie, on est dans les 5 pays les plus importants au niveau du service météorologique. Donc il y a les États-Unis, il y a le Japon. Nous, on est dans la classe moyenne de ces 5. Hein. On se bat avec l'Angleterre pour toujours être le premier des pays européens. Alors, un coup, c'est les Anglais, un coup, c'est nous. Alors, après, il y a l'Allemagne et les Italiens. Mais voilà. Donc, on est présent partout. Et puis, comme la France étant un pays colonial, pour planter son drapeau sur n'importe quel caillou, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir, évidemment, des côtes, le maximum de côtes. Donc, j'ai des collègues qui ont passé une partie de leur carrière sur des cailloux, hein, où c'est des îlots, où il y avait trois ou quatre légionnaires et trois ou quatre météos. Pour. Voilà. Voilà. Donc, la. Ah oui, ben aussi, voilà, mais il y a pas. Oui, oui, mais il y en a. Et on est aussi présent, évidemment, en Terre Adélie. Et il faut savoir que le chef de mission en Terre Adélie, encore maintenant, c'est un ingénieur météo. C'est lui qui est le chef de. Alors moi, je ne suis pas allé ni en Terre Adélie, ni au Kerguelen, et ainsi de suite, tout un tas de pays comme ça, enfin de pays d'îles, où la Météo France est présent. Alors, évidemment, on s'est aperçu que la météorologie, c'est quelque chose de mondial. Il fallait quelque chose pour coordonner tout ça. Donc, en 1951, l'ONU a créé l'OMM, qui tient son premier congrès. Donc, le siège de l'OMM se trouve à Genève. Et voilà, donc on peut coordonner ce qui se passe et notamment aider les pays aussi qui sont en voie de développement, qui n'ont pas forcément les moyens. De faire de la météorologie. Il faut savoir que Météo France, par exemple, fait la météo pour le Qatar, des choses comme ça. Voilà. Il y a de la collaboration avec les pays africains, mais disons que même des pays riches préfèrent sous-traiter leur météo parce qu'il faut tels moyens et puis il faut aussi des connaissances, il faut de la formation. Donc ils estiment qu'ils préfèrent payer plutôt que d'investir dans la connaissance, mais ça, c'est leur choix. Il faut le respecter. Voilà, là aussi, donc, on mesure les températures, même quand il fait très, très froid, même quand il fait nuit. Donc, il y a André Prudhomme, qui est un météorologiste, qui est décédé. Accidentellement en Terre Adélie. Donc chaque année, il y a un prix André Prudhomme pour un projet d'un météorologiste. Donc il y a un concours et il y a un prix tous les ans. Bon, on en parle très peu dans la presse, mais connu au niveau des météorologistes. Et là, bon, évidemment, après, ça va s'accélérer. Puisque vous voyez les premiers calculateurs qui n'avaient même pas la puissance de cet ordinateur-là. Donc, ça faisait ça. donc, évidemment, c'était la première des choses. On commençait à calculer le temps qu'il allait faire. Il faut savoir que lorsque moi, je suis rentré à la météo, on faisait des prévisions à 24 heures. C'était déjà merveilleux. Ensuite, on est passé à 48 heures et ça nous semblait pratiquement impossible d'aller au-delà avec les moyens qu'on avait. C'est pas si vieux que ça, je ne suis pas un vieux papy. Donc ça date des années 75 jusqu'aux années 80. On n'avait pas de moyens de calcul. Hein. C'était les premiers calculateurs, c'était les gros trucs à lampe comme ça. Et je vous dis, on arrivait à simuler l'atmosphère à 24 heures, 48 heures, mais au-delà, c'était totalement l'inconnu. Alors, on avait des méthodes, ce qu'on appelait la méthode norvégienne. On y allait avec la méthode ce qu'on appelait du petit train, du chemin de fer. C'est-à-dire qu'on avait une perturbation qui était là. 3 heures avant, elle était là. Donc, on estimait que 3 heures plus tard, elle aurait fait ce chemin-là. On constatait il y avait un décalage dans le temps, mais c'était du petit train et ça respectait pas ses horaires, évidemment. C'était encore pire que la SNCF. Et effectivement, maintenant, on fait des prévisions à 15 jours qui sont l'équivalent de ce qu'on faisait il y a 48 heures. Donc voilà, donc évidemment, après, a commencé les satellites. Donc les Américains ont lancé les premiers satellites. Comme c'est quelque chose qui se partage à météorologie, il fallait pouvoir capter les images. Donc on a créé le centre de Lannion en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, pour réceptionner ces images, parce que le satellite étant un satellite défilant, il passait jamais au même endroit. Donc il fallait des réceptions un petit peu partout sur la planète pour pouvoir capter ces images. Alors évidemment, les images qu'on reçoit, pour l'interprétation des images satellites, plus, il faut savoir, le temps qu'on dépouille l'image, la tempête était passée. Hein. C'était vraiment plus de la recherche que de la météorologie opérationnelle. Mais c'était le début. Alors, vous voyez, déjà, l'ordinateur avait un petit peu diminué en taille. Et puis, eh bien, on commençait à avoir quand même des prévisions numériques du temps. Hein, il faut savoir, on fait de la prévision numérique, c'est-à-dire qu'on prend l'atmosphère dans sa globalité, on la coupe en tranches, verticales, horizontales, ça nous donne des cubes. Et à chaque arête du cube, en fait, on met l'équation de l'atmosphère avec des inconnus qui sont la température, le vent, l'humidité, des choses comme ça, la pression. Et on va calculer à chaque arête de ce cube eh bien, le temps qu'il va faire dans 6 minutes, dans 12 minutes, dans 18 minutes et ainsi de suite pour faire des prévisions comme ça jusqu'à 15 jours. Voilà, c'est la méthode qu'on utilise. Et donc sur chaque point de la planète, que ce soit au sol et en altitude. Et alors tout dépend hein, de la puissance de l'ordinateur. Évidemment, au début, on avait des mailles qui étaient très importantes. Il faut savoir que, par exemple, le modèle français, il a une maille qui est variable. Aux antipodes, la maille, la distance entre deux arêtes, c'est 265 km pour avoir une distance de 7,5 km sur la France. Et on peut pas, la puissance de calcul ne nous permet pas d'avoir 7 km sur toute la planète. Donc après, pour avoir une maille encore plus petite sur la France, eh bien on va emboîter un modèle avec une maille plus petite et on va comme ça descendre d'échelle pour avoir une prévision de plus en plus fine. Parce que ce qui nous intéresse, évidemment, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que le temps à l'est de Poitiers, c'est le même qu'à l'ouest ? Et bon, on n'en est pas encore arrivé ici, mais il y a des modèles qui commencent à affiner ça. Et on descend à la maille du kilomètre. Et même, on a des modèles mais alors, pour gérer la pollution qui descendent à l'échelle de la centaine de mètres. Par exemple, mais alors ça, c'est des modèles qu'on réutilise, par exemple, pour analyser des accidents. Hein, l'accident sur l'autoroute A10 là, qui était liée à des fumées, par exemple, eh bien, on a rejoué cet accident-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'où venait la fumée pour des enquêtes, tout ça. Mais là, pour faire de la prévision opérationnelle, c'est trop compliqué, c'est surtout trop gourmand en ressources. Le calculateur qu'il nous faut n'existe pas encore. Donc la météorologie, on est des gros consommateurs de puissance de calcul, donc ça coûte très cher. Et c'est pour ça que ce sont des États qui organisent la météorologie. Voilà, donc ici, ben ça. Alors, dans l'idée de l'Europe, on a dit que ça serait quand même bien, ça coûte tellement cher la météorologie, que si on créait un centre européen. Donc on a créé un centre européen qui se trouve à Reading. Et les pays riches de l'Europe contribue à ce centre européen. Mais l'indépendance des pays étant, on a créé ce centre européen et on a continué à travailler aussi, chaque pays, à faire sa météorologie. Donc, ce n'est pas en concurrence, parce qu'en fait, on a choisi la complémentarité. C'est-à-dire qu'en France et dans les pays européens, on fait ce qu'on appelle des modèles de prévision déterministes. C'est-à-dire, on a un modèle, on le lance à 0 heure, on lui fait faire un calcul pour calculer l'atmosphère jusqu'à 5 jours ou 7 jours, mais il va nous donner une seule solution, puisqu'il ne tourne qu'une fois. Sur le modèle européen, on va faire une prévision probabiliste, c'est-à-dire que le même modèle, on va le faire tourner 51 fois en parallèle en lui introduisant les marges d'erreur de nos mesures. Par exemple, on mesure la température au dixième de degré. Là, si je vous dis il fait 6 degrés 1 à Poitiers, ça veut dire qu'en fait, la fourchette, c'est entre 6 degrés et 6 degrés 2. Donc, dans le modèle, on va les initialiser avec toutes ces erreurs. Ce qui va nous donner un panache de prévision jusqu'à 15 jours. C'est comme un petit peu un coup de fusil. Hein, au départ, c'est très serré, à la fin, c'est très éparpillé. Donc, en fonction de la prévisibilité de l'atmosphère, eh bien, ce panache sera plus ou moins serré. Et donc, ça va nous donner des probabilités d'un temps. Alors, on l'a matérialisé, en fait, par exemple pour les télévisions, en vous donnant un indice de confiance. On ne vous a pas donné les 51 possibilités, mais on vous dit que c'est 2 sur 5, 3 sur 5 ou 4 sur 5. Bizarrement, on a viré le 1 et le 5, parce que bon, de toute façon, 1, ça veut dire qu'on n'est pas du tout sûr, c'est pile ou face, c'est encore plus certain. Et le 5, une prévision, c'est toujours faux, par définition. Donc, de toute façon, il faut savoir que si on me dit... Vous êtes encore trompé, mais bien sûr, on se trompe tout le temps. La météorologie, on ne vous donne jamais la température au dixième de degré. Ce n'est pas possible, on ne sait pas faire. Il y a toujours une marge d'erreur. Il faut pouvoir intégrer cette marge d'erreur. Et c'est par défaut une prévision, c'est faux. Mais si on se suffit de ce qu'on vous donne, ça peut aller. Voilà. Alors, Météosat, c'est le premier satellite météorologique géostationnaire européen, là aussi. Les satellites, c'était un domaine réservé aux Russes et aux Américains. Donc, l'Europe a voulu se lancer dans la course. Donc, le premier satellite, qui est Météosat, c'est un satellite géostationnaire qui était à 36 000 km au-dessus de l'équateur, au-dessus du golfe de Guinée. C'était le premier. Voilà, donc là aussi, le modèle hémisphérique en point de grille, maille 250 km, est mis en service en 1979. Vous voyez, ce n'est pas si vieux que ça. Donc ça, c'est l'école de Toulouse, qui a été, elle, construite en 1982. Et puis, on a créé EUMETSAT, un organisme européen qui est l'exploitation des satellites. Puisque maintenant, de mettre un satellite, c'est bien, mais il faut maintenir en fait en permanence un satellite en état de fonctionnement, puisqu'autrement, on devient aveugle. Donc, le monde s'est partagé la vision planétaire météorologique. Donc, il faut savoir que l'Europe maintient deux satellites en l'air, depuis que les Russes n'en maintiennent plus, n'ont plus les moyens. Donc les Américains en tiennent deux, l'Europe deux et les Japonais un. Donc on a cinq satellites qui couvrent la planète. Donc celui qui surveille notre temps, il est au-dessus du golfe de Guinée et l'autre est au-dessus de l'océan Indien. Pour la Réunion, puisqu'en fait la France a la responsabilité de centre de prévision cyclonique qui est situé à la Réunion. Tout l'océan Indien, c'est sous la responsabilité de la France. 1985, donc voilà, donc ça c'est une vision d'un modèle. Le premier modèle, vous voyez que la maille a diminué, on est passé à 120 km et puis on a mis un autre modèle dans le grand modèle qui est passé à une maille de 35 km. Et je vous ai dit que maintenant on passe au kilomètre. Donc voilà, 1985, c'est pas si vieux que ça. Alors évidemment, là c'est la vision des radars. Donc on a créé aussi un réseau de radars. Vous voyez que on était un peu aveugle ici, du côté du Poitou-Charentes. Donc c'est pour ça qu'on a installé le radar de Cherves pour couvrir cette zone. Et là, en ce moment, il y a un radar qui est à Bordeaux et on va le déplacer, on va le mettre à Saint-Laurent-du-Médoc parce que en fait, la Charente-Maritime est extrêmement mal couverte. Et on se dit qu'il peut se passer des choses même en Charente-Maritime lorsqu'il y a des tempêtes. 1991, donc en fait, tous les organismes qui étaient sur la région parisienne, on les a transférés à Toulouse. On a fait de la concentration. Donc ça, c'est le météopôle de Toulouse. Donc ici, c'est le service central de prévision et la direction... de la climatologie qui se trouve dans ce bâtiment. Ici, c'est le centre de recherche, parce que Météo France se distingue aussi des autres pays où on a un centre de recherche dédié à la météorologie qui s'appelle le CNRM. Voilà, ce sont des chercheurs qui étudient et qui mettent au point les futurs modèles. Et ici, vous avez l'École nationale de la météorologie. Alors évidemment, quand la Cour des comptes est venue s'intéresser à Météo France, ils ont trouvé que c'était très luxueux. Alors ils ont décrit ça dans un cadre bucolique, parce qu'évidemment, maintenant c'est entouré. Enfin, ici, il faut savoir, c'était une zone de marécage autour de Toulouse. Donc Météo France, enfin l'État, a acheté les terrains. Donc dans ce temps-là, il n'y avait personne, il n'y avait aucun bâtiment à l'horizon. Donc on a quelques hectares, je ne sais plus combien c'est 300, plus de 300 hectares. Donc ont été paysagés et donc ils trouvent ça évidemment. Maintenant la ville a encerclé la météo et bah, ils trouvent que l'État est bien riche d'avoir tous ces terrains alors qu'avant personne n'en voulait. Donc là aussi c'est les modèles arpèges hein, qu'on a développés en collaboration avec le Centre européen. Et donc, eh bien, la maille, maintenant, c'est 30 km. Enfin, c'était 30 km et 300 km aux antipodes. Voilà. Et puis, le modèle, les sorties du modèle, ça, c'est le vent à 10 mètres. Maintenant, l'ordinateur nous restitue directement des cartes qu'il faut interpréter. 93 à 95, dans la direction de la météorologie, change de nom. On était une direction rattachée au ministère des Transports. On devient un établissement public sous la pression en fait de l'Europe, puisqu'en fait une partie de la météorologie devient concurrentielle. Des organismes privés font de la météo. En fait, ils achètent des prévisions toutes faites et après ils revendent. Donc on est en concurrence directe avec des entreprises. Donc il fallait changer de statut pour pouvoir conserver, si vous voulez, la maîtrise de la diffusion de l'information auprès des entreprises, alors que les Américains, ce n'est pas le modèle américain, mais reste un service d'État qui donne ces informations et après, des entreprises privées récoltent ces deux informations et font du commerce avec. Mais la France, on a conservé, enfin, l'État a souhaité que ce soit comme ça. Mais c'est remis régulièrement en cause. À chaque gouvernement, ils réfléchissent comment on pourrait faire autrement. Donc, là aussi, on a un nouveau modèle qui s'appelle Aladdin. Il y a tout un tas de choses comme ça. Ouverture de site internet de Météo France. Donc, on diffuse en fait de plus en plus d'informations vers le grand public, qui est de plus en plus consommateur. Tout le monde veut avoir sa météo maintenant. Il y en a. S'ils ne l'ont pas sur leur téléphone, le matin à la radio, dans les journaux, partout, il faut de l'information. On s'est aperçu aussi qu'on avait, après la guerre, en fait, en 1945, il y a une loi qui a créé un réseau d'observateurs sur la France, en définissant les besoins. Donc ce sont des observateurs bénévoles, il faut savoir qu'il y en a encore sur le département. Sur la Vienne, il y en a, je crois, un peu moins de 30 qui observent tous les jours, donc qui font des relevés, on leur fournit le matériel. Donc certains font des relevés de précipitations, d'autres température et précipitations. Ils nous écrivent ça sur un beau cahier, ils nous envoient une feuille à la fin du mois et on ressaisit tout ça pour faire l'étude du climat, ce qu'il a fait le mois précédent. Mais évidemment, dans la météorologie moderne, ce système-là a quelques défaillances, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à l'instant donné. Donc, il fallait implanter un réseau de stations automatiques. Donc, Météo France a investi pour faire un maillage en stations automatiques sur tout le territoire. Donc, on a installé 500 stations de ce type-là, qu'on a complété en fait à la même période avec le financement des départements par un réseau secondaire. Alors donc sur la Vienne, eh bien on a 4 stations de ce type-là, mais qui sont complétées par 15 stations plus petites, mais qui ont un financement en fait local. Tout ça pour observer le temps et avoir en permanence la température, lorsqu'on vous annonce la température qui fait à Montmorillon, qui fait dans tous les petits patelins, eh bien, c'est grâce à ces stations automatiques. Alors, là aussi, donc on diffuse de l'information. on annonce des tempêtes avec des vents qui sont supérieurs à 120 km/h. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a des morts. Alors notamment, la première des choses, c'est qu'il s'est passé le 12 et 13 novembre 1999. Dans notre esprit, ce n'est pas ce qui est le plus marquant, puisque ça a été les tempêtes de Noël. Mais il faut savoir qu'il y a eu quand même plus de 30 victimes qui étaient dans le midi de la France, hein, avec des précipitations importantes. Donc vous voyez, ça c'est des photos. Vous voyez la ligne de chemin de fer, là, hein, du côté de Perpignan. Donc voilà, on a l'aube à lourd tribut, puisqu'il y a 26 morts sur ce département. Et donc là, on s'est dit, à partir de là, il va falloir faire quand même quelque chose pour avertir en fait le public. Parce qu'on avait prévu ces catastrophes. Mais personne n'avait réagi, les secours n'étaient pas en ordre de marche. Il a fallu réagir après les catastrophes. Alors voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est les photos vues par Hotspot. Ça, c'était avant les précipitations et 10 jours après les inondations, là-bas, sur l'autre photo. Vous voyez quand même que le paysage a quelque peu changé. Il y a un petit peu d'eau qui s'écoule encore dans la Méditerranée. Hein, il y a toutes ces zones là-bas. Donc vous voyez qu'ici, tout ça, mais c'est l'eau qui est encore 10 jours après. Hein. Donc vous voyez qu'ici aussi, ça a changé un peu de couleur. Et puis, je ne vais pas vous dire, dans ces zones-là, il y avait quelques dégâts. Et puis, la même année, pas longtemps après, il y a eu quand même 2 tempêtes qui s'appelaient Lothar et Martin. Alors, il faut savoir que les noms ne sont pas attribués par... Ce n'est pas dans la culture française de donner des noms. Par contre, on se fait nous encore avoir à Météo France. Les journalistes sont au courant des noms des tempêtes avant nous, puisqu'en fait, les noms sont attribués par l'université allemande. Qui vend des noms. Donc vous pouvez, si vous aimez pas franchement quelqu'un, les années paires, c'est des noms masculins, et noms impairs féminins. Donc vous pouvez acheter un prénom. Voilà. La maîtresse de votre mari, vous pouvez attribuer une nom de tempête. Ça deviendra peut-être une catastrophe, mais pas forcément. Hein, parce que les noms étant attribués, c'est pas systématiquement des catastrophes. Hein. Donc, il y avait Lothar et Martin, à la fin de l'année 99, qui ont marqué en fait les mémoires, parce qu'évidemment, là, c'est un coup de vent sur la France et ça traversait un grand territoire. Alors qu'en fait, ça fait nettement moins de morts que la précédente catastrophe du mois de novembre. Alors, évidemment, là aussi, on avait prévu cette tempête. On avait annoncé des vents de 120 km/h. Mais il y a des gens qui sont quand même montés sur leur toit pour remettre les tuiles pendant en pleine tempête. On ne monte pas sur un toit avec des vents supérieurs à 120 km/h. On attend que ça se passe et puis on appelle les couvreurs. Voilà. Donc là, effectivement, et à partir de là, on a dit, on avait prévu. Ah, ça, c'est pas ce que je voulais. Impossible, ouais. J'ai cliqué où il ne fallait pas. Donc, on a mis en place la vigilance pour alerter en fait tout le monde et notamment les services préfectoraux, les pompiers, avec des procédures qui sont mises en place en disant lorsqu'on passe en vigilance orange, eh bien à partir de là, on met les secours en alerte, tout le monde est prêt à agir et quand c'est du rouge, évidemment, là on est plus qu'en alerte, on est déjà sur le terrain et voilà. Donc à partir de là, eh bien on a commencé. Donc on a rejoué pour calibrer en fait ces couleurs-là. Il faut savoir que ce n'était pas nouveau, puisqu'en fait, c'est des choses qu'on maîtrisait déjà, qu'on fait déjà dans les zones cycloniques. Hein, il y a dans les zones cycloniques, il y a des alertes qui sont des niveaux. On faisait ça aussi sur les avalanches. Il faut savoir que la responsabilité du niveau d'avalanche, c'est de la responsabilité de Météo France. Hein, souvent de fois, on pense qu'on s'occupe que du ciel, mais on s'occupe de la neige. On s'occupe aussi des océans. Voilà. Donc tout ça, c'est Météo France. Donc voilà, ça c'est les cartes de vigilance Alors évidemment, ces cartes de vigilance, elles vont évoluer aussi. À chaque fois, à chaque nouvelle catastrophe, on s'aperçoit qu'on avait prévu le temps qu'il allait faire, mais que la diffusion d'informations, ça avait encore quelque chose qui n'allait pas, puisque ce paramètre-là, eh bien, on ne l'avait pas intégré dans notre carte de vigilance, qui devient maintenant la base de toute alerte. Si on ne passe pas la couleur de la vigilance qui va bien, c'est un drame. Et si on se trompe dans la couleur aussi. Alors évidemment, comme en ce moment, on tire la couverture à chaque fois, même lorsqu'on passe en vigilance orange, tout le monde a tendance à passer, à dire « Oh, bon, c'est comme si on était en rouge ». Donc, la dernière tempête, notamment, j'ai eu quelques conflits avec la préfecture à ce sujet-là. Donc, 2002 satellites météorologiques européens, seconde génération est lancée. Donc là, avec notamment des images qui sont plus fines, avec des capteurs nouveaux. Hein, il faut savoir que les capteurs qui sont embarqués dans le satellite donc, font dans le domaine visible, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'une photographie dans le canal visible, mais en infrarouge aussi pour mesurer les températures, des nuages et ainsi de suite. Aussi sur la vapeur d'eau, c'est-à-dire la contenance de l'atmosphère en vapeur d'eau. Donc tout ça sont des capteurs qui sont embarqués. Donc ça vous donne évidemment. Alors vous voyez qu'évidemment, notre petite France qui se trouve là-haut, le satellite, c'est sa vision. Donc il va falloir travailler l'image là, hein, pour en sortir les détails. Alors, évidemment, 2004, c'était après 2003. On a eu des morts en 2003, des fortes chaleurs. Il peut faire chaud en été. Nos petits vieux, ils ne boivent pas assez. Il faut les faire boire. Donc, mais pour les faire boire, il faut que Météo France fasse quelque chose. Donc, on va passer la vigilance désormais canicule et grand froid. Donc, on a testé grand froid, là. Alors, pour la canicule... Alors, il a fallu trouver des critères, parce qu'autrement, dès qu'il fait chaud, on va passer en canicule. Donc, il fallait trouver des températures, des seuils de température, température élevée en maximale, mais température élevée aussi en minimale. Donc, il faut que la température minimale ne descende pas en dessous de 19 degrés pour notre région, et puis la température maximale fasse plus de 35 degrés pendant plusieurs jours, parce qu'une seule journée, on peut se sauver. Voilà, il faut trois jours consécutifs pour qu'on passe en canicule. Bon, ensuite, grand froid. Ce n'est pas nouveau. Hein. L'abbé Pierre a lancé son appel en 1954, donc vous voyez que c'est pas... Mais, alors, il fait froid, mais on s'est aperçu qu'il ne fait pas froid. On peut avoir moins 10 et on n'a pas froid, et s'il fait moins 8, on se caille. Alors, on a intégré, évidemment, les températures ressenties qui sont en fonction du vent et de l'humidité. Donc on est passé en grand froid, évidemment, là, en vigilance orange grand froid pendant le mois de février, parce que le vent nous a soufflé. Et en plus, ça durait du temps. Donc là aussi, en même temps, eh bien, on évolue. On a lancé maintenant des satellites, l'Europe, qui avait pour l'instant que des satellites géostationnaires, qui sont à une altitude très élevée. Pour voir finement l'atmosphère, il faut des satellites à orbite basse, qui sont des satellites défilants. Donc, l'Europe a lancé son premier satellite en 2006, défilant, pour compléter en fait, les satellites américains. Parce qu'il faut savoir qu'on a d'autres satellites, mais les satellites météorologiques ont des capteurs bien spécifiques. 2007, il s'est passé des nouvelles choses. On s'est aperçu qu'il pouvait pleuvoir. Ce n'était pas mortel, mais qu'à force de pleuvoir, il y a forcément l'accumulation de pluie entraînait des inondations. Alors, est-ce que Météo France ne pourrait pas faire quelque chose pour nous avertir qu'il allait y avoir des inondations ? Donc, effectivement, notre métier, c'est de prévoir le temps, mais les inondations, c'est aussi un domaine des hydrogéologues. Donc, on a créé un service qui s'appelle le CHAPI. Le CHAPI, il est situé à Toulouse. Donc, il y a des météorologistes et des hydrogéologues qui vont étudier, en fait, que va devenir toutes ces pluies qui sont tombées. Est-ce que ça va entraîner une crue des inondations. Donc là, il va falloir eh bien, lancer une nouvelle vigilance. C'est ce qu'on a fait, hein, c'est-à-dire intégrer les crues torrentielles dans un nouveau système de vigilance. Donc voilà les symboles. Donc vous voyez que la vigilance s'améliore, on avertit de plus en plus, avec ce système qui plaît beaucoup et qui met notamment les services de secours en alerte, les préfectures en émoi, les maires qui sont responsables aussi. Il faut savoir que c'est le maire qui est responsable de la sécurité sur la commune et évidemment il veut savoir des choses. Et comme c'est la préfecture qui les avertit, on le fait. Alors, en 2009, le modèle AROM devient opérationnel. Donc, c'est un modèle à maille fine qui était à 2,5 km de maille sur la France. Maintenant, il est passé à 1 km. Ça permet notamment de visualiser des phénomènes dangereux qu'on ne pouvait pas passer, qui sortaient de nos mailles. Un orage, ça peut avoir 10 km de diamètre, 5 km de diamètre. Donc, on ne voyait pas l'évolution de ces nuages qui pouvaient devenir dangereux. Donc, avec un modèle à maille fine, ça permet de le voir. Le 24 janvier 2009, une autre tempête. Hein, c'était la tempête Klaus qui s'est abattue sur le sud-ouest. Donc voilà, ça a causé quand même 18 morts. Ça, c'est la forêt des Landes. Ça fait quand même du dégât. Voilà les trajectoires des tempêtes. Hein. Donc ben là, la vigilance a fonctionné. Tout le monde était content. 2010, autre catastrophe. Ah, donc là, évidemment, on s'est aperçu, en plus très bien prévu, on a passé les départements les plus touchés en vigilance rouge, tempête mortelle, mais on s'est aperçu que ce n'était pas forcément la tempête qui avait fait les morts, c'était l'océan qui était passé par-dessus les digues. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Alors Météo France, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous ? Alors évidemment, parce qu'on avait aussi prévenu les services préfectoraux que y aurait, la mer sera en surcôte, il y avait une surcôte, c'est-à-dire que la dépression, qui est en fait un manque d'air, eh bien, comme l'air n'appuie pas sur l'océan, l'océan a tendance à gonfler. Donc il y avait la conjonction de fortes marées, la marée haute était au moment du passage de la tempête sur les côtes. Donc ça allait entraîner des possibilités de submersion, d'inondation derrière les digues. Donc on avait prévenu, mais comme ce n'était pas dans le descriptif, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien, il n'y a rien. Donc, une nouvelle vigilance qui est mise en place en 2011, qui est la vague de submersion. Voilà, donc maintenant, on a mis une nouvelle... Alors voilà, le symbole qui apparaît. Quand vous avez ce symbole-là, ça veut dire que la mer peut passer par-dessus les digues et que derrière, ceux qui ont construit en contrebas, ils peuvent avoir les pieds dans l'eau. Donc voilà les images qui sont connues de ce phénomène-là, mais ce n'est pas la tempête en elle-même qui a fait les morts, c'est vraiment les inondations qui étaient derrière. Il faut savoir que potentiellement, la mer peut aller jusqu'à Niort. Hein, voilà, le donjon de Niort avait été en bord de la plage. Le marais Poitevin est susceptible d'être inondé un jour par l'océan. Ce n'est pas impossible. C'est même tout à fait plausible. C'est comme la Camargue qui, un jour ou l'autre, disparaîtra sous la Méditerranée. Oui, ça va pas se faire. Mais là, il faut dire que la mer est rentrée de plusieurs kilomètres hein, dans les Charentes. Hein. Donc voilà. Donc 2011, tout récent, la tempête Joachim. Et alors là, on n'est pas passé. Alors vous voyez qu'on a commencé à intégrer la vigilance vague de submersion. On était passé en orange sur les côtes charentaises et puis bretonnes. Voilà, donc là, on n'était pas passé en rouge. Donc ça a été une tempête. Alors malheureusement, c'est là un petit peu le conflit que j'ai eu avec la préfecture, enfin gentiment, c'est que ils ont activé en fait comme s'ils étaient en rouge. Ils ont dit mais voilà, donc à partir de 11h, de 23h, on a mis en place le centre opérationnel départemental, avec les pompiers qui n'ont pas dormi de la nuit, alors que la tempête était prévue à 6 heures du matin, donc on avait le temps de dormir. Mais voilà, il ne faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire que les prévisions maintenant sont devenues fiables. On place le orange, c'est une pré-alerte, c'est quand on est rouge, vraiment, c'est dangereux. Donc là, il faut rester attentif, voir l'évolution, mais ce n'est pas la peine. Parce qu'en fait, le lendemain, on avait des réflexions. Oh là, en fait, la tempête, elle n'était pas si grave que ça. Ben non, c'était prévu, pas si grave que ça. C'était la première des tempêtes d'automne. Donc voilà. Mais ça, quand même, a porté un bateau sur nos côtes. Comme quoi. Donc voilà, à chaque catastrophe, en fait, eh bien, on apporte une évolution. Et ça fait accélérer la météorologie. La vigilance, c'est utile, mais il faudrait peut-être pas tout mettre non plus maintenant dans la vigilance, puisque ça devient le parapluie. Parce que, en plus de ça, maintenant, en fait, on avertit les maires avec un système. Parce que pour qu'un département passe orange, il faut que le phénomène intéresse plus de la moitié du département. Donc, il peut se passer des événements qui sont de l'ordre de la commune ou du canton. On ne passera pas le département orange parce qu'un canton va être touché par un phénomène dangereux, notamment sur les orages. Donc on a mis des systèmes d'alerte qui sont calés sur nos radars, et lorsque la durée de retour des précipitations est supérieure à 10 ans, eh bien, ils reçoivent un message sur leur téléphone en leur disant « Attention, en ce moment, il se passe un phénomène qui a une durée de retour supérieure à 10 ans. » En fait, pourquoi supérieure à 10 ans? Un phénomène décennal, c'est un phénomène qui va classer la commune en état de catastrophe naturelle. Donc c'est le critère pour classer une commune en état de catastrophe naturelle. Donc ils sont avertis qu'il se passe un phénomène qui peut être, qui est dangereux, donc qu'ils prennent leurs précautions. Voilà. Voilà. La vigilance donc en continu et les différents symboles. Voilà, le vent violent, les orages, les inondations, pluie, inondation, vague de submersion, la neige, le verglas, les avalanches, la canicule et le grand froid. Bon, encore de la place, on peut en créer d'autres. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ah, je m'attendais à cette...
Que vous ne prenez jamais en compte les phases de la Lune. Or, nos anciens utilisaient beaucoup les phases de la Lune.
Alors, en fait, alors, la Lune, c'est quoi? Alors, le problème, c'est la première de nos horloges. Donc, historiquement, la Lune a calqué nos activités. Enfin, on s'est calqué sur les phases de la Lune. Mais je peux vous démontrer facilement que la Lune n'a pas d'influence sur le changement du temps. Ça vaut, voilà. Pourquoi? Bah, tout simplement, lorsque le temps va changer dans le Poitou, on a dans une phase de Lune, la même phase de Lune, elle sera à Strasbourg, le temps ne va pas changer en même temps à Strasbourg. Alors pourquoi ce qui serait valable dans le Poitou ne serait pas valable en Alsace? Et parce que les dictons en Alsace sont les mêmes. Et quand le temps change en Alsace, ça ne change pas forcément en même temps dans le Poitou. Donc tout simplement, je ne dis pas que ça n'a pas d'influence, mais l'influence est tellement minime par rapport au reste des paramètres qu'il est considéré comme négligeable. Parce que la Lune, la phase, elle est sur le méridien partout, pareil. Et en Méditerranée, le temps ne change pas en même temps qu'à Lille. Ni en Belgique, alors je peux prendre des extrêmes, de l'Espagne jusqu'au nord de... C'est la même phase de la Lune.
Regardez par exemple...
C'est toujours entre deux mouvements de Lune. La Lune n'arrête pas de changer. Oui, parce que c'est notre premier calendrier. Tout simplement, la période de dégel... elle a été de 13 jours et 4 heures, sans dégel. 13 jours et 4 heures. Donc ça ne correspond pas à une période de lune. Alors on pourrait dire, ouais, mais ça pourrait être presque la moitié d'une phase de lune. Oui, on peut toujours attacher. Pourquoi la lune? Tout simplement, il n'y avait pas de l'horloge, c'était le soleil et la lune. Pourquoi le calendrier des Chinois est calqué sur les phases de la lune? Voilà, mais c'est un de nos papes qui a créé notre calendrier. Pourquoi il n'a pas pris le calendrier lunaire? Et tout simple, voilà. C'est pareil, les saisons, le temps ne change pas forcément le 21 mars. Voilà. Même au niveau astronomique, l'atmosphère, en fait, ce qui le dirige, c'est de la thermodynamique. C'est le soleil qui chauffe ou qui ne chauffe pas. Après, il y a des phénomènes qui s'ajoutent, qui sont les effets de serre, qui modifient le climat. Mais c'est un bruit de fond. On parle beaucoup des changements climatiques, du réchauffement climatique. Il faut savoir que la variabilité interannuelle est beaucoup plus importante. Hein, c'est-à-dire qu'une différence d'une année sur l'autre est plus importante que le bruit de fond qu'on peut remarquer. Évidemment, ça influence. Puisqu'en fait, il faut savoir, si la température moyenne augmente d'un degré, c'est le climat qui remonte de 200 km. Voilà, donc une température moyenne annuelle, alors on calcule ça sur 10 ans, eh bien, c'est le climat qui va remonter de 200 km. Ça veut dire climat, ça veut dire les végétaux, ils doivent s'adapter. Les insectes remontent aussi. C'est ça qui est important. Parce qu'en fait, la variation du climat, ce qui s'est passé en plusieurs millénaires dans le passé, en fait, on l'a reproduit, nous, en 150 ans. Et nous, on arrive à s'adapter, mais les végétaux, il faut les adapter aussi. Il faut savoir qu'il y a récemment, je suis allé à un colloque de l'INRA, il y a des recherches sur le cognac, les cépages du cognac, on a pu les souches pour faire évoluer. Parce qu'en fait, le cognac, il a une signature, il a un goût. Il faut une certaine acidité du raisin pour faire du bon cognac. Et bien, tout simplement, on a pu les souches qui vont permettre de faire évoluer le cépage du cognac pour conserver cette signature de goût. Donc, ils sont à la recherche de cépages très anciens. Ils en ont trouvé un qui est à l'île de Ré, qui a plusieurs, je crois, plus d'un siècle de vie, qui a été en permanence recouvert par le sable. Voilà, donc pour récupérer ces cépages, ils en ont trouvé, je crois, au Mexique aussi, des choses comme ça. Donc vous voyez, ça entraîne, parce qu'en fait, c'est la végétation. Il faut savoir que les forêts de chênes, eh bien, dépérissent au profit, certainement, du chêne vert qui est en train de gagner. On n'était pas un pays au chêne vert. Mais voilà, lorsqu'on plante un chêne, c'est pour un siècle. Donc si on le plante et on dit qu'à la fin de sa vie, il ne va pas pouvoir atteindre sa maturité parce qu'il va mourir avant, parce que l'environnement, il fera trop chaud, trop sec pour qu'il puisse croître. Voilà. C'est surtout ça, pour notre latitude. Après, il y a des choses bien plus inquiétantes ailleurs. Hein. Voilà. D'autres questions ? C'est tout simplement la position d'un anticyclone qui fait que l'air ne se renouvelle pas sur la France, par exemple. Hein. Un anticyclone des Açores, s'il est bien installé, ça évolue pas. Et l'énergie solaire s'accumule et ça chauffe de plus en plus. Comme le froid, ce qu'on a connu au mois de février, en fait, c'est l'anticyclone sibérien qui était venu jusque chez nous. Et en fait, l'air ne se déplaçait pas et le rayonnement, pas de nuages la nuit, rayonnement nocturne qui refroidit de plus en plus. Et puis le froid, eh bien, se cumule. C'est comme on peut cumuler la chaleur, on peut cumuler le froid aussi. Donc, ce n'est pas forcément de l'air qui vient du Sahara. Et si l'air se déplace, derrière, il y a d'autres. Alors, de temps en temps, il y a des vagues de chaleur comme ça qui se déplacent, mais lorsqu'il y a beaucoup de vent, ça ne dure jamais très longtemps. C'est vraiment une position d'anticyclone qui ne se déplace pas et qui entraîne aussi des pollutions. Alors, le réchauffement climatique, c'est pas. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, déjà, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une religion. Alors, on constate que le climat évolue plus rapidement que s'il faisait naturellement. En fait, on connaît parfaitement le cycle du carbone, puisque dans les ères précédentes, il y a eu des cycles du carbone qui s'est constitué, des réserves. Le fait de dégager du carbone dans l'atmosphère, ça a systématiquement modifié l'environnement climatique dans les millénaires précédents. Notre problème, c'est qu'on le produit à une échelle de temps qui n'est pas compatible avec l'ère géologique, tout simplement. Donc, le climat change, c'est une certitude, on l'a constaté. Il y a des phénomènes caractéristiques, notamment la teneur de l'air en carbone. On a pu le mesurer puisqu'on a fait des carottages dans les calottes glaciaires et on est remonté il y a très longtemps. Maintenant, le réchauffement climatique, comme je vous dis, notre sentiment, notre ressenti, on ne peut pas le ressentir. C'est clair, parce que la variabilité d'une année à l'autre est plus importante. Lorsqu'on fait la courbe en temps réel du climat, on a quelque chose qui est aussi très, comme ça, alors que le changement climatique, c'est une courbe qui progresse au niveau du millénaire, normalement, sauf que là, elle est en train de progresser au niveau du siècle, ce qui n'est pas normal. Voilà, ça, c'est ce qu'on constate. Après, on fait des projections, et les projections, ça peut être de la science-fiction. Par contre, alors, on a tout un tas de scénarios. On dit, si on arrête de consommer du carbone, qu'est-ce qui va se passer? Si on consomme tout le carbone, qu'est-ce qui va se passer? On fait des projections, mais on ne sait pas la capacité, en fait, de la nature à absorber ce surplus de carbone. Alors, on sait que ça peut entraîner une acidité des océans, des choses comme ça. Il y a tout un tas de choses, mais ce ne sont que des supputations.
Dans ce cadre-là, est-ce que vous constatez que les catastrophes ont une fréquence qui augmente et une amplitude aussi qui augmente par rapport à...
Non. On constate que ça ne se produit pas. Pour l'instant, on ne peut pas démontrer... Oui, ben c'est parce qu'on a la mémoire du temps. Et vous avez bien vu que l'histoire de la météorologie moderne, elle n'est pas si vieille que ça. Hein. Donc là, dans le meilleur des cas, là, deux siècles, c'est quoi à l'échelle Pour l'instant, non. On en fait beaucoup plus de publicité, ça c'est une certitude. Et comme je vous dis, les périodes de froid, ben voilà, on pensait que depuis 1987, ça y est, on ne connaîtrait plus de période de fort gel et des choses comme ça. Et puis 2012 nous a démontré le contraire. Les tempêtes, c'est pareil. La fréquence des tempêtes, on peut avoir plusieurs tempêtes la même année, puis avoir plusieurs années sans tempête. Et en plus, on a une mémoire défaillante. Donc on a des enregistrements qui sont, je vous dis, parcellaires avant 1850. Donc c'est les registres paroissiaux. Il y a certains curés qui notaient rien, ça ne voulait pas dire qu'il ne se passait rien. Il y en a certains qui notaient tout, mais ce n'est pas parce que dans la commune d'à côté, tout est noté dans un registre paroissial qu'il y avait plus de catastrophes sur cette commune-là. Alors, il n'y a pas que les officines privées, hein, y a aussi Météo France. En fait, on fait de la prévision, ce qu'on appelle de la prévision saisonnière. C'est-à-dire on prévoit la saison à l'avance. Alors, typiquement, au mois de novembre, ce qu'on avait prévu pour l'hiver, d'ailleurs pour les 3 mois qui allaient venir, donc on prévoit, en fait, si la température moyenne de l'hiver est supérieure à la normale ou inférieure à la normale, si les précipitations de l'hiver seront supérieurs à la normale ou inférieurs à la normale. Qu'est-ce que nous disaient les prévisions saisonnières? Elles nous disaient que l'hiver serait légèrement plus sec que la normale et légèrement plus frais que la normale. Alors si on analyse l'hiver qui va se terminer, parce que l'hiver météorologique commence de décembre et se finit à la fin du mois de février. On a connu un mois de décembre extrêmement pluvieux, doux, un mois de janvier doux, très sec, et un mois de février froid, exceptionnellement froid, et très sec. Donc, si on fait la moyenne de ces 3 mois, je pense que le modèle n'était pas si mauvais que ça. Mais effectivement, comment interpréter ça? Là, ce que le modèle du printemps nous annonce, c'est plutôt une température proche de la normale et plus humide que la normale. On verra ce que ça va donner. Est-ce que on peut avoir 2 mois très secs et puis 1 mois très pluvieux? C'est ce que nous donnait, par exemple, l'été. L'été, il était température pratiquement proche de la normale et légèrement et plus pluvieux que la normale. C'est ce qu'on a connu. Bien que le sentiment des vacanciers disait il a été pourri, ça c'est vrai, mais la température était fraîche. Mais non, tout compte fait, la température moyenne, elle était proche de la normale. Il n'a pas fait plus frais qu'un été. Voilà, il y a le ressenti aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça. Donc, on peut faire des choses comme ça. Mais après, enfin, je peux vous jouer Albert Simon aussi, vous annoncer qu'il va faire de l'orage le 15 août. J'ai une chance sur deux que ça marche. Hein, voilà. Donc, ou pour le soir du 14 juillet. C'est vrai que souvent de fois, il y a un orage pour le 14 juillet. Et puis, ça nous marque parce que ça gâche le feu d'artifice. Mais... Alors, il y a une phase où les précipitations ont augmenté et normalement, on devrait avoir moins de précipitations. Mais ce qui change aussi, c'est la répartition des précipitations dans l'année. Il faut savoir que jusqu'à présent, les normales climatiques qui étaient donc 71-2000, 30 ans, une normale climatique, c'est la moyenne d'un paramètre sur 30 ans. Le mois le plus pluvieux sur le Poitou, c'était le mois de mai. Donc les normales suivantes, qui sont 81-2010, nous donnent en fait une diminution des précipitations au mois de mai. Et en fait, des précipitations un peu moins importantes pendant l'hiver, avec une répartition selon les mois différentes, et des précipitations estivales qui sont sous forme d'orage plus importantes en moyenne, mais beaucoup moins efficaces. Donc ça nous donne des inquiétudes en fait, pour la recharge des nappes phréatiques. Il faut savoir que les nappes phréatiques se rechargent en fait entre le mois d'octobre et le mois d'avril. Toutes les précipitations en dehors de cette période-là ne sont plus efficaces pour les nappes phréatiques puisqu'elles sont consommées par la végétation. Plus on donne de l'eau à une plante, plus elle en absorbe. Et on peut consommer comme ça 7 mm par jour par 1 mètre carré de gazon. Hein. Donc, voilà. Voilà, oui, parce qu'il y a des gens qui veulent terminer, ils vont s'endormir dans leur cabine.
Vous parlez toujours de la normale, à la télévision, la normale, vous dire que c'est sur 30 ans, mais est-ce que c'est 30 années puissantes ou 30 années puissantes?
Alors, il y a... Alors, si vous voulez, au niveau mondial... Les normales sont calculées tous les 30 ans, voilà, sans recouvrement. Le problème, non, c'est 30 ans, c'est-à-dire que, par exemple, elle s'est terminée en 2000, les prochaines normales, ça sera en 2030. Ça, c'est pour le niveau mondial. Alors, le problème, c'est que c'est un problème de communication. Dans les pays européens, enfin, les pays civilisés, les médias sont tellement... assoiffé de connaissances et de diffusion de l'information, si on commence à leur dire qu'en 2012, on leur parle des normales qui s'arrêtent en 2000, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent, oui, mais alors les 10 dernières années, vous ne les comptez pas. Donc, en France et dans d'autres pays européens, on fait des normales glissantes avec recouvrement tous les 10 ans. On n'est pas encore arrivé à des normales tous les ans. Mais voilà, mais c'est seulement une pression médiatique qui nous entraîne à faire ça. En fait, il faut savoir, pour analyser le climat, il ne faudrait pas de recouvrement. Mais ça nous donne quand même une évolution tous les 10 ans et c'est une demande.
Du fait qu'on est de plus en plus informé, est-ce que vous croyez précisément, pour répondre à la question qui était dans le programme, est-ce que ça influence réellement la vie des gens?
Oui, évidemment, je vous dis, c'est ce que... Voilà, alors ça influence la vie de tout le monde. Déjà, maintenant, c'est pratiquement inimaginable de ne pas être au courant de la météo, du temps qu'il va faire, de ne pas prendre connaissance des prévisions. Déjà, vous passez pratiquement dans la rue, le premier sujet de conversation, lorsque vous ne connaissez pas la personne, c'est de parler, vous lui dites bonjour et vous lui parlez du temps qu'il fait ou qu'il va faire, ou qu'il a fait. Et ça, c'est le sujet de conversation de tout le monde. Et puis, ça influence aussi notre caractère. Ce que je dis, moi, souvent de fois, c'est lorsque je parle de la prévision, je dis qu'un prévisionniste de Météo France de bonne humeur ne fait pas la même prévision qu'un prévisionniste de mauvaise humeur. Hein, c'est clairement, c'est ça. Et puis, il y a votre ressenti aussi. Lorsque vous avez une période de brouillard pendant plusieurs jours, une semaine de brouillard gris, lorsque dans les prévisions météo, on commence à vous annoncer des éclaircies, si vous n'avez pas plus de la moitié de la journée du soleil, vous avez dit de la météo, ils se sont trompés. Alors que nous, pour une éclaircie, pour nous, 10 minutes de soleil, c'est une éclaircie. Et donc, notamment au mois de février, on s'amusait à compter les minutes de soleil, puisqu'en fait, on disait, ah, là, on est passé à 86 minutes de soleil, ça commence à être des éclaircies significatives. Alors, tout dépend aussi du moment de l'éclaircie, parce que alors, c'est les débats avec les journalistes, maintenant qu'on intervient en permanence sur les radios, c'est si l'éclaircie se passe entre midi et deux, tout le monde est content. Ah là, c'est au moment où on a débauché, on est sorti, on a vu l'éclaircie. Si l'éclaircie se passe pendant le travail, personne ne l'a vu, ah ben voilà, on n'a rien vu. Il suffit que ça soit bâché entre midi et deux et qu'à partir de 17h, ça soit couvert, personne n'a vu le soleil pratiquement. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un temps magnifique. Si on est resté renfermé dans cette salle, il suffit qu'on sorte à midi, c'était tout gris, même s'il y a eu du soleil tout l'après-midi. Je ressors maintenant, c'est encore tout gris. Alors, ils sont encore plantés dans la journée. Voilà, c'est notre ressenti et l'interprétation qu'on a du temps. Et effectivement, ça influence, je pense, ça influence déjà les animaux. Il faut savoir qu'ils ont aussi un ressenti des événements qui se passent et qui vont se passer, qu'on a perdu l'instinct, cet instinct-là. Pour les tempêtes de 99, les grands animaux étaient sortis des forêts. Ils étaient dans des clairières ou dans des champs. Tout le monde l'a constaté, les chasseurs étaient les premiers surpris. Ils étaient une dizaine d'heures avant les tempêtes, en dehors des forêts. Ben, les enfants, mais ils ne vivent pas dans les forêts. Oui, non, mais c'est ça. Oui, il y a... Il y a des changements comme ça qui. Voilà. Mais c'est des choses que nous, on a perdues avec la connaissance, en fait. On perd notre instinct.